Le 7 mars dernier, l'entièreté des clubs de top 12 à part Chambly publiait conjointement un communiqué pour marquer leur refus de la réforme du top 12 qui leur était proposée. Ils en profitaient également pour énoncer plusieurs problèmes qu'ils avaient avec le fonctionnement actuel. Deux jours après, la Fédération française de badminton répondait en notant la position des clubs et en ajoutant espérer que la réforme se fasse en coopération avec eux. Nous avons donc reçu Franck Laurent, élu à la Fédération française de badminton et chargé de mener à bien cette réforme. Nous avons parlé avec lui de son projet pour le top 12, de sa vision du dialogue avec les clubs, d'une éventuelle diffusion des matchs et un petit peu de la prochaine édition des Orléans Masters, tournoi dont il est également le président. Vous retrouverez tout cela dans ce nouvel épisode de
21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally! Oh, sensational!
I'm the bad guy.
Take that!
Bonjour Franck Laurent, merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode.
Bonjour, Châtel 21.
Alors, ma première question, elle est assez générale. Vous avez été élu, si je me trompe pas, au conseil exécutif de la Fédération française de badminton en avril 2022. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre rôle au sein de la fédération ?
Alors, j'ai été élu effectivement au conseil exécutif en avril à la chute de 2022. Pendant la première période de mon élection, j'étais membre du conseil exécutif sans rôle particulier. Sur l'été, entre juin et septembre, parce que ça s'est fait à plusieurs étapes, Jules Ardouin, le responsable de la vie sportive, le vice-président, m'a proposé de prendre la réforme du top 12 qui avait déjà été initié par d'autres acteurs.
Et c'est une réforme qui était déjà entamée du coup avant, c'est ça que vous dites ?
Oui, il y a eu deux acteurs qui ont travaillé sur les réformes, donc il y avait déjà un certain nombre d'éléments issus des travaux qui avaient été faits avec les clubs. Donc, j'ai pas les dates exactes de quand ça avait été initié, mais voilà, il y a déjà eu pas mal de travaux et moi j'ai récupéré ces travaux-là pour continuer.
Et vous, personnellement, du coup, avant de rejoindre ce projet, c'était quoi votre rapport avec le top 12 ? C'est vrai que nous, on vous connaît surtout comme président des Orléans Masters, mais est-ce que vous suiviez ça beaucoup ? Et surtout, après, c'est quoi votre constat sur le format actuel du top 12 ? Puisque, comme beaucoup à la fédération, j'imagine que s'il y a un projet de réforme, c'est qu'il y a des problèmes qui sont identifiés, quoi. Ou au moins des choses à améliorer.
Il y a plusieurs questions. Oui. Déjà, moi j'étais président de club. J'étais président de club d'un club de National 1, le CLTO Badminton. Donc, la National 1, c'est pas le top 12. Mais ça s'en approche. Donc, j'ai été confronté à un certain nombre de problématiques quand j'étais président de ce club. Donc, j'ai touché du doigt un certain nombre de problématiques qui sont inhérentes aujourd'hui à notre sport et à l'évolution de notre sport. Le deuxième point, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que le top 12 National 1, hein, on va dire le top élite, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on voit bien que notre sport a évolué entre moi à l'époque où j'ai commencé en 91 et aujourd'hui on est passé d'un système où on est passé avec des joueurs qui étaient très amateurs à des joueurs aujourd'hui qui sont professionnels et qui vivent de leur sport. Donc on a une belle vitrine via le top 12, mais il y a de l'insatisfaction. On a des constats qui ont été faits par les clubs, qui ont été faits par la fédération et qui sont remontés. Et donc, on a un certain nombre d'insatisfactions sur le format actuel, sur notre responsabilité sociale vis-à-vis des joueurs. Donc, l'idée, c'était de pouvoir proposer et d'avancer sur une nouvelle trajectoire. Donc, mais c'est d'abord issu des clubs de top 12 eux-mêmes que cette demande de réforme a été faite.
Et est-ce que vous pouvez nous présenter ou au moins nous évoquer les contours de ce projet de réforme qui a été proposé par la Fédé?
Alors, déjà, il faut resituer le contexte, comme je viens de vous le dire. Les parties des insatisfactions faites par les clubs. Il y avait des constats de dire que les durées de rencontre étaient trop longues, le problématique sur le calendrier, l'alternance aller-retour, le nombre de clubs. Pour certains clubs, il y avait une problématique sur le nombre de clubs, le fait que ce soit en poule, le fait qu'il y ait des joueurs internationaux qui ne puissent pas participer parce qu'ils sont appelés par l'équipe de France, le fait qu'un certain nombre de clubs salarient leurs joueurs. Ce qui est plutôt bien, hein, ce qui est très bien de salarier ses joueurs, mais d'autres passer par d'autres systèmes, donc ça crée une concurrence déloyale entre les joueurs. Voilà, d'accord. Il y a quand même tout un aspect qui faisait que le top 12 aujourd'hui se retrouve dans un système qui est un petit peu bloqué et qui ne peut plus évoluer. Qui peut plus évoluer parce que si on n'a pas la main, si le club n'a pas la main sur les joueurs, s'ils n'ont pas professionnalisé les équipes, s'ils n'ont pas du public dans les tribunes, parce que la com ne va pas en conséquence, si on n'a pas la partie la gestion des arbitres aujourd'hui qui cause beaucoup de problèmes aussi pour les clubs. Donc voilà, vous voyez, il y a tout un tas de petits cailloux qui sont plus ou moins gros, hein, quand même, qui font que ça bloque un peu l'évolution du top 12. Donc ça, c'est le constat, et je pense qu'on partage à peu près tous, que ce soit fédération ou club, on partage globalement le même constat. L'avenir. Donc l'objectif, c'est maintenant qu'est-ce qu'on a posé. Alors, déjà, la problématique, c'est les premiers travaux qui ont été faits. Ce sont des travaux, on va dire, d'un premier pas. Voilà, c'est un premier pas pour régler toutes les problématiques dont je viens de parler. Ce premier pas, il arrive à la suite d'un certain nombre de concertations. Il y a eu des concertations faites avec les clubs. Il y a eu un certain nombre de concertations faites avec les LILI, les CODEP. La partie les arbitres, d'autres acteurs de la société civile, de l'extérieur, etc. Il y a eu un certain nombre d'échanges de faits. Ça a été présenté et on a une problématique de timing. Dans le sens, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est 4 évolutions. C'est aussi simple que ça, c'est passage de 5 matchs, que les joueurs qu'on passe sur une équipe de 3 hommes, 3 femmes, donc avec un joueur qui peut faire 2 matchs, donc dont le double, soit double homme, soit double dame, qu'on change le nom de la compétition, au lieu de l'appeler top 12, on l'appellerait top et élite. Et il y a la gestion des mutés qui est en cours, qui n'est pas tout à fait finalisée à l'heure où je vous parle. Donc voilà, on est sur un petit pas, un premier pas, qui permet d'enclencher cette réforme. Parce qu'après, va y avoir le nombre d'équipes, la gestion des poules ou pas poules, etc. Et c'est très important de faire ce pas-là, parce qu'en termes de timing, nous sommes en 2023, il faut qu'il y ait, ça passe par les instances de règlement, etc. Donc il faut que les clubs soient informés assez rapidement et ils y sont parce qu'ils ont été associés à 2 réunions. Et on va après enclencher les autres grands chantiers qui seront beaucoup plus structurants en termes de budget, en termes de réforme. Et ça va demander du temps. Un peu de temps parce qu'il faudra aussi aller en profondeur. Et c'est souvent dans les détails que se cache le diable, comme on dit. Et par exemple, je prends des choses simples. Par exemple, si on parle de la fédéralisation des arbitres, qui est un sujet qui est sur la table, c'est un coût. c'est un coût pour la fédération. Ça veut dire qu'on transporte les coûts des clubs aujourd'hui vers la fédération. Mmh. Donc c'est un coût. Donc ça veut dire une ligne budgétaire. Et qui dit une ligne budgétaire, il faut que ça soit dans un budget. Et le budget, il est voté à l'Assemblée générale, en général tardivement dans l'année, mais plutôt en mars-avril ou mai de l'année en cours. Donc ça ne sera pas dans ce budget-là 2023. Donc c'est quelque chose qui pourrait être dans le budget 2024. Donc en application 2024-2025. Vous voyez, il y a tout un certain nombre de chantiers qui sont très longs à mettre en œuvre, parce qu'on parle sur plusieurs années, et il faut les travailler avec la fédération, parce qu'il y a des coûts inhérents. On peut parler de la communication, hein, la retransmission télé, c'est pareil, il y a des coûts. Donc avec la fédération, il faut travailler tous ces sujets-là avec la fédération, et travailler ces sujets-là aussi avec les clubs. Et c'est ce qui va se passer dans cette deuxième phase. Mais ce qui était important là aujourd'hui, c'était d'initier un mouvement.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, et c'est aussi pour ça qu'on vous a invité, c'est parce que je pense que nos auditeurs ou même les gens qui suivent le top 12 de plus ou moins loin, on voit que la partie émergée de l'iceberg avec, on se dit juste le format il est pas bon, il faut le changer, mais il y a un vrai travail, il n'y a pas que le format, vous l'avez dit, il y a les arbitres, c'est un vrai sujet, il y a la médiatisation, la diffusion, et en fait c'est pas juste un petit chantier de on passe de tel nombre de rencontres à tel nombre et puis c'est tout. En fait, il y a une vraie refonte en fait du top 12 derrière tout ça.
Dans ma vision, aujourd'hui, il y a une refonte.
Hmm. Qui semble partagée par les clubs.
Tout le monde la partage.
Oui, oui.
Là où on emmène ces clubs. Alors, je prends top 12 et N1 parce que forcément, quand... Quand on est en A, certains ont espoir de monter au top 12. Ouais. Donc ces 24 clubs, il va falloir les emmener et les accompagner. Donc on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Parce que quand on parle de professionnalisation, ça veut dire que si vous avez 8 joueurs qui jouent dans votre équipe de top 12, passer au salariat de 8 joueurs, c'est un coût conséquent pour les clubs. Donc on ne peut pas dire au mois de septembre, on claque des doigts et vous avez 8 employés dans vos clubs. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc moi, c'est ce que j'ai appelé la politique des petits pas. Parce que ce que je veux, c'est qu'on puisse embarquer les clubs dans cette réforme, dans cette dynamique, et qu'on puisse aller de l'avant sur un certain nombre de sujets. Et j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres sujets.
Et ce que vous avez dit tout à l'heure, les 5 matchs, le top élite et les équipes 3 femmes, 3 hommes, ça, l'objectif, c'était que ça soit lancé en septembre 2023, donc pour la saison prochaine.
Oui, j'ai oublié un quatrième point, c'était de pouvoir jouer du vendredi au dimanche.
Ok.
En fait, ce quatrième point, il existe aujourd'hui dans les textes, sauf qu'il faut le déclarer en août, donc personne ne le fait.
D'accord.
C'était une libéralisation des clubs pour que ça soit beaucoup plus souple. Et donc l'idée, c'est justement d'enclencher ce mouvement en septembre. Parce que si on attend, si on rate ce coche de septembre, bah forcément on reporte tout d'un an, 2024-2025. Bon, moi je ne fais pas trop de politique, mais la 2024, je crois que fin de l'année, il y a une assemblée générale où il y aura où il y aura un vote d'une nouvelle équipe à la Fédération française de badminton. Je pense que naturellement, mais ça n'a rien à voir avec l'équipe en place, mais y compris moi-même dedans, naturellement, c'est pas la bonne période pour lancer quelque chose. Ça aurait de facto reporté encore d'un an, surtout qu'il y a en plus des gros chantiers que la fédération va mener, qui vont bouger beaucoup le monde du badminton. Je pense que c'était le bon créneau pour entamer et démarrer quelque chose.
Vous avez mentionné plusieurs points. Là, je parle vraiment juste de la façon dont les matchs se déroulent. Vous avez dit que vous travaillez avec les clubs, les ligues, les CODEP. Est-ce que vous êtes inspiré de certains championnats? Enfin, là, d'instinct, je pense au Danemark parce que c'est le championnat qui peut-être fonctionne le mieux. Mais est-ce que c'est, est-ce que ouais, vous avez pris des idées de championnats européens?
Alors, il y a eu pas mal de formats qui ont été étudiés.
D'accord.
Je pense qu'on a eu pas mal d'idées, pas mal de formats qui ont été proposés. Vous me connaissez, moi je suis quelqu'un d'assez simple. Je pense que les recettes les plus simples marchent. On a une discipline avec 5 matchs. C'est aussi simple que ça. Il y avait le championnat d'Europe par équipe mixte sur la liste là, il y a 15 jours.
Avec 5 matchs.
Avec 5 matchs.
Voilà.
Ça marche très bien. Moi je trouve que voilà, c'est simple. On a un match de chaque discipline. Les disciplines sont égales. L'une vers l'autre, tandis que le championnat de Danemark, je crois qu'il y a 6 matchs ou il y a quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a la possibilité de faire égalité. Je dis peut-être une bêtise là, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Je trouvais ça très simple. Notre sport veut qu'il y ait 5 disciplines. On fait 5. Et voilà, donc on valorise toutes les disciplines. Il n'y a pas de raison qu'on mette en avant plus le mix par rapport au simple homme ou simple dame. Donc il y a une égalité femme-homme qui est respectée. Donc voilà, moi c'était plutôt ma tendance. Et c'était en discutant avec un certain nombre de clubs, ils sont plutôt d'accord avec ce format-là.
Et pour la programmation des rencontres, Benoît parlait du Danemark, mais il y a des pays européens où les championnats, des fois, ça se joue en semaine. Et vous, du coup, dans les règles, celles que vous avez dit en dernier, vous voulez garder ça entre le vendredi soir et le dimanche soir. Est-ce que c'est une... j'imagine, du coup, que c'est une volonté de laisser ça le week-end. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que jouer la semaine, vous avez totalement écarté cette idée?
Alors, c'est pareil... non, on n'a absolument pas du tout écarté cette idée, mais pour jouer en semaine, il faut 2 arbitres et 1 juge arbitre.
Oui.
Aujourd'hui, nos juges arbitres ne sont pas des professionnels, nos arbitres ne sont pas des professionnels non plus. Donc, ça veut dire, imaginez une rencontre, je vais prendre 2 clubs au hasard, enfin, je vais prendre des clubs qui ne sont pas dans le top 12, comme ça sera simple. Une rencontre Marseille-Rennes. Donc, il faut que vous trouviez un mardi soir un arbitre de niveau national, deux arbitres de niveau nationaux, un juge arbitre de niveau national qui ont envie de se déplacer à Marseille. Parce que là, on vient de parler des joueurs. Mmh. Les joueurs sont quasiment tous professionnels, même si on ne se le dit pas. Donc, eux, ça ne leur cause pas trop de problèmes. Ça cause moins de problèmes, mais quand même. Mais pour la question de l'arbitrage et du juge arbitrage, ça cause un petit souci. Ça voudrait dire qu'ils sont obligés de prendre une demi-journée de congé pour se déplacer le soir, etc.
C'est une vraie contrainte de vie.
Oui, ça devient une contrainte. Une vraie contrainte. Donc aujourd'hui, nous, on a considéré que... il n'y a pas que la partie arbitrale, mais on a considéré que la partie non sportive n'était pas encore prête. Donc pour l'instant, on voulait ouvrir, que ça soit plus simple déjà, pour du vendredi au dimanche. On faisait ce premier pas. Après, ça reste dans les tuyaux et c'est absolument pas fermé, mais il y a encore des contraintes à lever.
Si on parle de ce sujet de top 12 maintenant, c'est parce que le 7 mars dernier, du coup, il y a 11 clubs de top 12 qui ont dégainé et publié un communiqué où, en gros, ils disaient qu'ils n'étaient pas d'accord pour cette réforme pour pas mal de points. Et donc, ils disent que dans la forme actuelle, ils s'y opposent. Est-ce que vous avez été surpris par cette réaction des clubs de top 12 qui, comme vous l'avez dit au début, pour la plupart, partagent le même constat que vous?
Alors déjà, je partage leur constat.
Oui,
c'est pas,
j'ai pas dit que c'était
pas mon constat, moi je partage le leur. On va remettre la mairie au centre du village. Dans leur communiqué de presse, et je l'ai dit à certains, en fait, ils sont contre quoi? Donc les 4 points que je viens de se soulever, les 5 matchs, non. Le jouer jusqu'au vendredi soir, ça existe, du vendredi au dimanche, ça existe déjà, sauf qu'on a assoupli les règles. Changement du nom, je pense que personne n'est contre changer le nom, c'est pas ça qui change. Le seul point qu'on a assoupli et qu'on a vu avec eux, parce que moi dans ma réforme au départ, excusez-moi, dans la réforme que j'avais proposée au comité exécutif, c'était un match par joueur. C'est-à-dire qu'on passait à 4 hommes et 4 femmes. On a fait une réunion avec les clubs début février. On leur a proposé ça. Ils nous ont dit que c'était un peu trop dur pour l'année 2023-2024. Donc on a rechangé et donc on a proposé de faire possibilité qu'un joueur fasse un joueur ou une joueuse fasse deux matchs avec le minimum le double homme. Comme ça, ça faisait des équipes 3 hommes, 3 femmes. Donc, en fait, moi, ce que j'ai dit à un certain nombre de présidents de clubs, vous êtes contre quoi aujourd'hui, là ? À part qu'on va pas assez vite ?
Oui, c'est l'aspect partiel de la réforme, peut-être, en fait. Plus ça que le fond, ce serait ça ?
Qu'on va pas assez vite sur un certain nombre de sujets, là, je pense qu'ils ont, ils ont raison. Que la fédération, aujourd'hui, n'attribue pas un budget conséquent au top 12, c'est une chose. Qu'on n'a pas été assez vite sur la professionnalisation, ils ont raison. Un calendrier plus clair, ils ont raison. La fédéralisation des arbitres, ils ont raison. La communication, etc. Ben, oui, ils ont raison. Tout ça, c'est pas affiché aujourd'hui et c'est pas ce qu'allait être voté le 5 avril prochain. Mais ça leur a été présenté que c'était dans les tuyaux. Maintenant, ce qu'on a peut-être mal mesuré, c'est qu'ils ne voyaient pas un calendrier très clair et très précis sur quand est-ce que ça allait être mis en œuvre. Mais c'est des choses qui sont complexes, qui ne sont pas simples à mettre en œuvre, et il ne faut surtout pas casser la dynamique du club, des clubs de top 12 et de N1. On ne peut pas leur imposer des réformes très fortes et très structurantes. Il faut qu'ils se structurent en même temps que l'avancée du top 12.
Il y a presque, dans ce que vous dites, un côté, j'ai envie de dire, rassurant, je ne sais pas si c'est le mot, parce que là, ce serait plutôt la forme et la manière qui est reprochée, plus que le fond et les idées.
Bah, peut-être, mais moi, je leur ai toujours dit que mon téléphone était ouvert, hein, donc, et il y en a qui m'appellent, des clubs du top 12, donc... Oui, je ne sais pas si c'est la forme ou le fond qui est reproché. Pour l'instant, moi, je pense qu'il y a des réunions avec la fédération aujourd'hui. Et, moi, je n'ai pas pu y participer pour des contraintes professionnelles, mais il y a une explication de fait, de réexpliquer la démarche et les objectifs. Donc, moi, je pense qu'on va aller vers quelque chose qui va... On va aller plutôt dans le sens de l'apaisement et il y a peut-être un petit ajustement à faire à quelque chose qui n'a pas été étudié sur les mutés aujourd'hui. Ah, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut initier quelque chose. Il faut avancer. Maintenant, moi là où je rejoins les clubs de top 12, c'est qu'on ne va pas assez vite. Et on n'affiche pas suffisamment d'éléments. Donc, dont acte, certainement, il y a peut-être une petite erreur de communication sur ce sujet-là.
Parce que moi, ce qui m'a aussi frappé dans ce communiqué, et vous en avez un peu parlé, c'est qu'au début, il parle de la réforme, mais en fait, après, dans ce qui est énoncé, on a l'impression qu'il y a plein de problèmes qui ne datent pas de cette réforme. Par exemple, plein de problèmes pour les clubs de top 12. Donc, par exemple, les contraintes qu'on leur impose au niveau des arbitres. Vous l'avez dit, le budget alloué par la FFBAD au top 12. Il parle à un moment de l'attitude aussi de la direction technique nationale vis-à-vis des joueurs. De loin, comme ça, on a un peu l'impression qu'en fait, cette réforme, c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase, quoi, et que c'était un truc qui était un problème entre les clubs et la Fédé qui datait de plus longtemps que ça, en fait.
Je ne vais pas prendre de cas particulier, mais il faut voir que la direction technique nationale ou la direction de la performance aujourd'hui, elle a un objectif d'emmener des joueurs au plus haut niveau. De prendre, voilà. Donc, d'avoir le meilleur classement mondial, d'avoir une médaille au championnat d'Europe, au championnat du monde ou aux JO. Ça, c'est la mission que l'État français confie à la Fédération française de badminton. Sauf qu'on a un problème, c'est que les joueurs ont une grosse partie de leur rémunération qui viennent des clubs, des villes, des régions, etc. Donc ça, on va dire du local. Donc la fédération investit sur un certain nombre de joueurs assez lourdement. Les clubs investissent aussi sur ces mêmes joueurs assez lourdement. C'est des budgets qui commencent à être conséquents. Sauf que ils n'ont pas les mêmes objectifs. Il y en a un qui a besoin de faire briller son club, et il a raison. Et l'autre, la fédération, elle, elle a besoin que la France brille à l'international. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et parfois, l'objectif de l'un sert l'autre, et l'autre... voilà. Donc, il y a cette contradiction à gérer entre ces deux entités. Les deux ont raison. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut trouver le bon fonctionnement entre la disponibilité d'un joueur pour jouer dans son équipe et la disponibilité d'un joueur pour qu'il aille briller sur les tournois internationaux. Hein, je rappelle, la BWF a encore augmenté le nombre de tournois internationaux cette année. Donc, ça fait, potentiellement, ça fait plus de week-ends de prix. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre tout ça. Et le bon équilibre, il reste aujourd'hui, il n'est pas du tout dans ce qu'on a proposé. Hein. Ça fait partie des chantiers. On a ouvert une boîte, effectivement, avec plein de chantiers. Mais on ne sait pas... Quand tout va aboutir, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont très structurants pour les équipes de Top 12, pour les joueurs aussi et pour la fédération. Donc voilà, il y a tout ça à ménager et à trouver le bon équilibre entre tous ces acteurs.
Oui, c'est exactement ça, parce que enfin on en parle régulièrement nous dans nos épisodes, mais c'est pas que la Fédé, c'est vrai que on parle de la Fédé, de la FFBAD, mais le fait d'avoir rajouté des tournois au calendrier de la BWF, hein, nos auditeurs le savent, mais on reproche, enfin nous on trouve que c'est trop à un moment donné. Effectivement, ça aide pas à trouver cet équilibre dont vous parlez entre le besoin de briller à l'international, le besoin des joueurs de venir aider leur club en top 12, et sans citer de nom, c'est pas l'objectif, mais il y a des joueurs qui de haut niveau qui eux-mêmes se rendent compte que les deux sont actuellement pas ou peu compatibles.
Oui, il y a cet équilibre vraiment à trouver, et du coup aussi quand il y a une mauvaise performance d'un joueur sur un tournoi sans viser personne, la fédération d'un côté dit bah oui, mais il a joué en top 12 une semaine avant alors qu'on lui avait dit de se reposer. Le club, voilà, on est dans quelque chose qui où les gens n'ayant pas les mêmes objectifs pour les joueurs ne peut pas avancer.
Oui, d'accord.
Donc il va falloir rétablir cet équilibre et trouver la bonne solution. Donc ça, moi, sur la partie sportive, savoir combien un joueur peut faire de tournois dans l'année, est-ce qu'il doit en faire 10, 15, 20, j'ai pas la réponse. Hein. Il faut savoir quand même que c'est une rémunération aussi, hein, quand les joueurs gagnent aussi sur le terrain.
Bien sûr.
Donc c'est important. Donc il faut trouver cet équilibre entre tous ces acteurs. Je crois que j'ai oublié une partie de votre question, mais...
Non, c'était exactement... Non, c'était exactement ça. Je soulignais juste que nous aussi, on reprochait, mais on trouvait que la BWF, la joue de tournoi, en tout cas, de notre point de vue, c'était pas ce qu'il y avait d'idéal. Et effectivement, ça va malheureusement pas dans le sens de... J'ai envie de dire pour aider cette réforme-là, donc...
Non, ouais, la BWF a rajouté deux tournois, je crois, hein, c'est ça. Mais sauf qu'il y en a un qui vient de jeter l'éponge, hein, donc un 300 qui vient de jeter l'éponge. Hein, donc, il faut qu'on fasse attention aussi à l'équilibre. On pourra faire un long chapitre sur les tournois internationaux aussi. mais faut que la BWF fasse attention aussi.
Et moi, j'ai l'impression aussi que, à travers le communiqué des clubs de top 12 et celui qui a suivi de la Fédé deux jours plus tard, que j'avais pas encore mentionné, il n'y a pas un problème aussi de communication. Alors, vous me dites que vous êtes en contact avec certains présidents, que vous avez fait des réunions et tout. Même, par exemple, pour le problème que vous évoquiez avant avec les joueurs en tournoi ou en top 12, j'ai l'impression que ce qui était reproché par les clubs aussi, c'est qu'on passe un peu dans leur dos et que le DTN s'adressait directement à leurs joueurs pour leur dire de pas jouer. Je pense, est-ce que c'est pas aussi ça le problème, qu'ils veulent qu'on passe plutôt par eux que par les joueurs directement pour ce genre de choses, et globalement la communication en général entre la Fédé et les clubs?
Alors, je vais faire deux réponses. Hein, qu'est-ce que ça a à voir avec la réforme, avec les quatre points que je vous ai cités avant?
Bah, c'est ce que je disais, il y a un mal plus profond.
Yeah, voilà.
Et oui, c'est ce que vous mentionnez aussi depuis, hein, au début. Ouais, ouais, ouais.
On ne peut pas dire on est contre la réforme, et d'un autre côté, dire c'est, on ne reproche pas ces quatre points. Ces quatre points, on les accepte, mais c'est quelque chose. Donc, on n'est pas contre la réforme. On a un mal ailleurs. Mmh. Ça, je suis d'accord. La problématique, on va prendre un peu de hauteur. Quand le joueur n'est pas salarié de son club, il est indépendant, il est auto-entrepreneur, voilà. La fédération, je ne sais pas si ce cas existe, hein, mais imaginons, on va prendre plusieurs cas. La fédération elle demande au joueur s'il peut jouer sur tel tournoi ou pas tel tournoi, etc. Donc le joueur étant auto-entrepreneur, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui gère son business. S'il est salarié de son club, normalement la fédération doit appeler le club pour dire attention, nous avons une problématique d'agenda, et c'est comme ça dans les conventions entre le club et la fédération. Nous avons une problématique d'agenda, et dans cette problématique d'agenda, tel joueur doit se reposer à tel moment ou doit partir sur un tournoi. Donc on appelle l'employeur, parce que c'est l'employeur qui a la main sur l'agenda d'un salarié. Et quand il n'est ni salarié, ni auto-entrepreneur, il est quoi? Il est bénévole, le joueur. Donc on fait comment? Qui décide là? Donc je crois que c'est arrivé au cas où un joueur a dit oui à la fédération et oui à son club. En disant oui, je vais me reposer et oui, je vais jouer en top 12. Donc il y a aussi la responsabilité des joueurs aussi dans cette histoire-là. Donc, mais j'ai pas, c'est pas un reproche que je fais là à tout l'écosystème. C'est un constat. C'est comme ça aujourd'hui. On a ce constat qui est que le club n'a pas la main mise sur ses joueurs parce qu'ils ne sont pas tous salariés. Le joueur doit faire des performances à l'international et doit aussi respecter son contrat, soit moral, soit de salariat avec le club. Et la fédération doit briller. Donc on revient un peu à la même situation de départ. Si les règles étaient claires entre tous les acteurs et de savoir comment ça se passe, c'est quoi les objectifs qu'on a, ça serait plus simple. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de commission de top 12 ou de championnat élite. Je ne parle pas d'une ligue, hein, je parle ne serait-ce d'une commission, pour qu'on puisse parler de ces problèmes-là. Aujourd'hui, il n'y en a pas au sein de la fédération. Donc, il y a top 12 et N1 sont gérés comme le championnat régional, comme le championnat départemental, alors que ce n'est pas du tout la même typologie et les mêmes problématiques. Donc, moi, j'aurais aimé qu'on aille vers ça dès l'année prochaine. Ça ne pourrait pas se faire, je le remettrai sur la table. Mais il faudra qu'on en parle un jour, qu'il y ait une commission spécifique pour les championnats interclubs de haut niveau.
Vous parlez de ce que vous pouvez ou voulez mettre en place l'année prochaine. Nous, parce qu'on est un média, si tant est qu'on puisse s'appeler comme ça, on est un podcast, il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est la communication. Alors là, la communication, pas au sens auquel Ewan l'a évoqué, mais communication, diffusion autour du top 12, c'est des sujets qui nous reviennent régulièrement sur la table et aussi quand on discute avec les clubs. Est-ce que pour vous c'est une priorité et c'est quelque chose qui peut être acté, qui peut être mis en place dans les premiers éléments que vous évoquez, ou c'est d'abord plutôt le format et ensuite c'est des choses qui viendront se greffer?
On pense à la diffusion des matchs notamment.
Oui, la diffusion des matchs.
Alors, je ne sais pas s'il y a une... il y avait ce premier pas, moi j'y tenais beaucoup pour entamer ce premier pas là, ça c'était important. Après, l'ordre, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui pourront être menées en parallèle si on prend un peu de temps et un peu de recul. Si on prend le format du championnat, c'est que du réglementaire. En fait, ça impactera, il y aura peut-être moins de clubs en top 12, en top élite, où on aura le même format. Voilà, mais je veux dire, c'est que de la discussion et comment on embarque... tout le monde. Donc ça, en fait, ça coûte pas cher. C'est ça que je voulais dire.
Oui.
Tandis que dès qu'on veut faire de la com, si on veut filmer, par exemple, et aujourd'hui, on a 10 rencontres en même temps. Non.
12.
6.
Oui. Oui.
Alors, on a 6 rencontres en même temps. Donc, ça veut dire sur deux terrains. Si on va sur le format 5 matchs sur deux terrains, donc ça veut dire que 6 rencontres fois 2 caméras, donc ça fait 12 caméras, des régisseurs, etc. Donc, ça fait un peu de moyens. Même si on met des appareils photo pour filmer, mais il y a quand même un peu de moyens. Vous connaissez le coût des médias. Il faut avoir une plateforme, il faut pouvoir diffuser ça. Pourquoi ne pas mettre des commentateurs qui font du multiplex, qui pourrait être intéressant. On met 2 commentateurs à Paris, ou ailleurs, hein, peu importe.
On est là si vous pensez à nous.
Non, mais vous avez raison, c'est sûr, c'est un budget, oui.
Non, mais voilà, il y a un budget.
Oui, oui.
Pour l'instant, ces deux villas n'ont pas été faits. Il faut. Si on filme, ça veut dire qu'on. Je prends quelque chose de bête, mais il faut que les clubs, en début de rencontre, puissent monter le système de vidéo qui va bien et le mettre en place, faire des tests, etc. Donc il y a un peu de moyens humains. Et soit on délègue au club la partie montage, régie. Et ça, vous le savez mieux que moi, et parce que moi je le vois de plus en plus sur l'Orléans Master. La vidéo, c'est compliqué en fait, hein. Je m'aperçois que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Confier à des bénévoles amateurs qui sont peut-être des super entraîneurs, mais sont peut-être pas forcément des super gestionnaires de vidéos, ça peut être compliqué. Donc il faut, est-ce qu'on met quelqu'un sur place pour faire de la vidéo, donc ça veut dire 6 personnes, vous voyez, quand on tient un peu la ficelle, dire oui, retransmettre des matchs sur YouTube, oui c'est facile, je prends mon téléphone, je transmets, non. Et après, nous on est Fédération Française de Badminton, on doit délivrer un produit de qualité, on délivre pas du TikTok,
hein, parce non, que si, oui, on délivre, c'est clair.
Si on délivre avec mon pauvre Nokia 4210 là, un bout de film, après on va dire ah ouais, mais c'est la Fédération Française, elle met pas les moyens, c'est tout pourri ce qu'ils font, etc. Non, vous voyez comment sont diffusés, par exemple si je prends les IFB, qui est un super produit, c'est très quali, mais ça coûte extrêmement cher, c'est aller à l'extrême, mais ça coûte très cher. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à quels moyens on met sur la communication. Et même si on met, je vais dire une bêtise, 1000 euros, il faut que pour ces 1000 euros, le spectateur il en ait pour son argent. Il faut qu'on l'explique. Donc, vu qu'on est aussi une fédération française, on se doit faire des choses de qualité. Il faut prendre un peu de réflexion.
Ce qui est déjà fait sur les France, parce qu'on a l'impression peut-être qu'on parle que de choses négatives, mais il faut aussi dire ce qui est bien fait. Et on reproche, nous, à Badminton Europe, parfois, de diffuser des tournois continentaux avec une qualité discutable. Ce qui a été diffusé au championnat de France par la Fédé, on peut que signaler et que encourager ce qui a été fait. Donc effectivement, oui, ça demande des moyens. Et faire ça sur, on l'a dit, dans le format actuel, 6 rencontres chaque journée, c'est clair que c'est un coût et c'est un budget, une préparation. Donc c'est ce que vous dites, ça peut pas être... on comprend que ça peut pas être fait au hasard.
Pour que vos auditeurs, je ne sais pas comment on dit, des auditeurs des podcasts...
Auditeurs, c'est parfait.
Auditeurs, il n'y a pas de nom pour ceux qui écoutent des podcasts.
Pas encore.
Si je prends une journée, je pense que le format en France, où je prends en relais, par exemple, 4 caméras par une prod télé, c'est 25 000 euros. Voilà. C'est ça que ça coûte. Hein. Et donc c'est juste 4 caméras. Hein. Donc ça a des coûts. Alors on n'arrivera pas sur un top 12 avec 4 caméras sur deux terrains. Ça ne sera pas possible. Hein. On n'a pas les moyens aujourd'hui de faire ça.
Non, mais ça donne une idée. Ouais.
Certains matchs de foot sont filmés avec 50 caméras. Hein. Donc je vous explique le budget. Hein. Excusez-moi, je vous ai coupé.
Non, non, c'est, ça donne une idée aussi, parce que nous, on en a peut-être une avec Ewan, mais c'est pas le cas de... Parfois, je pense que nos auditeurs ou les gens qui suivent pas forcément ce que c'est la vidéo se disent « Bon, mais on vient avec deux caméras, deux mecs qui filment et c'est réglé. » Non, c'est plus compliqué que ça, il faut aussi le rappeler.
Oui, oui, on le voit bien. Moi, c'est... il faut voir qu'une fédération, quand elle délivre un produit... donc délivrer de la vidéo. De toute façon, elle sera critiquée systématiquement. Voilà, c'est le côté français que nous avons. Voilà, il faut que le produit soit qualitatif. Et parce qu'on n'acceptera pas d'avoir un produit, une caméra qui tombe en panne, la caméra qui filme que la moitié du terrain, ou des choses, voilà, où le match a commencé et la caméra démarre. Voilà, ça, il ne faut pas qu'on arrive sur un système comme ça. Donc il faut beaucoup de professionnalisme et ça va avoir un coût. Et tout ça, il faut l'inscrire dans une trajectoire du financement du top 12. Je ne sais pas si on va y arriver hein, demain. C'est pas simple parce qu'après, il faut trouver de l'argent dans un budget fédéral qui est contraint, qui paye. Est-ce que ce sont les clubs qui participent? Est-ce que ce sont les spectateurs via une entrée payante? Est-ce que c'est des espaces publicitaires qu'on arrive à vendre à des partenaires? Voilà, il y a plusieurs idées de sources de financement, mais il faut le financer. Donc c'est soit sur les fonds propres de la Fédé, soit autrement. Et pour ça, c'est un budget et il faut le consolider, il faut voir ce que ça coûte et il faut une volonté d'y aller. Donc j'ai pas la réponse du tout à cette question, mais c'est sûr que moi, à titre personnel. Moi, j'aimerais bien avoir un multiplex tous les samedis après-midi et voir les 6 rencontres et des gens qui commentent et qui expliquent pourquoi telle rencontre va être compliquée, etc. Moi, ça serait avec des professionnels comme vous ou comme d'autres hein, qui pourraient être super intéressantes.
Oui, pour rappeler nos auditeurs, après, Ewan, je te laisse ta question, mais si vous regardez ceux qui suivent le Danemark, le championnat danois, qui a des joueurs incroyables, un format différent, c'est pas diffusé sur les chaînes publiques avec une qualité incroyable. Hein, donc ça veut bien me dire aussi que même dans des championnats majeurs, ce que je pense le top 12 en est un, c'est pas facile de trouver des financements pour avoir une diffusion, une communication hyper professionnelle. Comme on peut l'avoir au foot ou dans d'autres sports majeurs.
Ça sera pas facile et ça va mettre quelques années. Ouais. On aura certainement des phases intermédiaires. Peut-être qu'on filmera qu'un terrain. Peut-être que ça sera qu'une partie des rencontres. J'ai pas la solution. Peut-être qu'on n'arrivera à rien faire aussi parce que ça coûtera. On s'apercevra que ça coûtera trop cher et qu'on n'a pas le budget. Mais il faudra. C'est bien, en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est bien dans les réflexions. Maintenant, il faut mettre ça en musique avec les clubs.
Et donc, dernière question sur le top 12. Du coup, maintenant, c'est quoi votre programme pour la réforme? Est-ce que ce communiqué, cette réponse des clubs de top 12, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Vous l'aviez dit tout à l'heure que vous alliez vers de la discussion. Est-ce que vous voulez encore mettre en œuvre dès la saison prochaine les 4 points que vous aviez prévus? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans le futur proche jusqu'en septembre pour vous?
Alors moi j'ai pas assisté à une réunion avec les clubs pour des problèmes professionnels. Moi à titre personnel j'ai envie qu'on avance parce que si on n'avance pas on fera rien et après on fera notre système où on dira c'est pas bien, ça n'avance pas et ça n'a jamais été réformé, ça fait 10 ans qu'on en parle, etc. Donc moi ce que je veux dire aux clubs c'est avançons. On est quasiment d'accord sur. Il y a un sondage que j'ai fait auprès des clubs. Par exemple, sur les 5 matchs, il y a 60% des clubs qui sont d'accord pour faire 5 matchs. Vendredi soir, tout le monde est d'accord parce que de toute façon, c'était ce qu'il y avait déjà dans les règlements, sauf qu'on l'assouplit. Donc. Voilà, le changement de nom, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, je pense que ça ne cause pas de difficultés. Donc voilà, il y a pas à 3 hommes 3 femmes, on a changé parce que moi j'étais plus pour 4 hommes 4 femmes, on a changé, on est passé à 3 hommes 3 femmes pour être plus souple. Donc là je pense que il y a pas grand monde qui est plus d'accord avec ces quatre points. Moi si j'ai une préconisation à faire, c'est travaillons, allons-y, mettons ça en musique et travaillons sur les autres sujets, parce que tous les autres sujets qu'on vient de citer, qu'on vient de parler sur la communication, la professionnalisation, la fédéralisation des arbitres, etc., c'est des sujets extrêmement complexes. On va mettre du temps. Et sur le format aussi, c'est est-ce qu'on reste à 12 clubs, 10 clubs, une poule unique ou pas une poule unique, le calendrier, c'est des sujets qui sont d'autant plus complexes. Donc passons cette étape et allons vers d'autres chantiers avec les clubs.
Je pense que oui, je pense dans la façon dont on a pu en discuter, je pense que c'est clair que tout n'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait penser. Là tout de suite, on a beaucoup parlé de top 12 et il n'y a pas que le top 12 dans la vie. Vous avez quand même vous êtes très actif dans le badminton. On vous avait d'ailleurs reçu dans le podcast pour votre rôle de président des Orléans Masters. L'édition de cette année passe en Super 300. C'est en avril. Je fais un peu, je vous laisserai le faire après, mais je fais un peu la pub du tournoi pour nos auditeurs qui seraient à Orléans ou pas loin ou qui voudraient s'y rendre. Comment se présente cette première édition en Super 300 pour vous?
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses nouvelles pour nous. Hein, ça paraît pas comme ça, mais il y a quand même un chantier qui est considérable sur la compétition. Hein, passer d'un 100 à un 300, c'est absolument pas anodin. On le savait. Hein, on a beaucoup travaillé depuis le 18 juin. On sait qu'on passe au niveau 300. Donc pour l'instant, je pense qu'on est prêt, mais c'est toujours difficile. Hein. Moi, j'ai un esprit d'honnêteté vis-à-vis de tout le monde. Je pense qu'on est prêt. Il nous reste toujours des petits points à régler là, sur la dernière ligne droite. On va délivrer un beau spectacle. Il y a plein de belles choses qui vont se dérouler pendant la semaine du 4 au 9 avril. Je peux en parler, je ne sais pas combien de temps j'aurai, mais ça sera aussi le dernier tournoi international de Boris Leverdesk, qui est aujourd'hui le joueur en simple le plus titré et qui a été le meilleur joueur de tous les temps, pour l'instant. Hein, j'espère qu'il va se faire dépasser. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Ça sera une belle occasion de lui rendre un bel hommage.
Bien mérité.
Il a un parcours exceptionnel. Il faut savoir que alors je ne sais pas quel âge il avait, mais il était au championnat de France, le premier championnat de France jeune en 2002 à Orléans. Et il avait gagné, mais je ne me souviens plus dans quelle catégorie il était. En 2002, il faudrait retrouver son âge, mais
donc ça va boucler la boucle.
Ça fera une petite boucle quand même. Parce que j'étais trésorier du championnat de France à l'époque. Donc ça fera une petite boucle. Donc voilà. On a une belle édition qui va se préparer.
Voilà, j'imagine que vous avez hâte. Et puis c'est qu'on a quand même une grande chance en France du coup d'avoir un tournoi comme les IFB en 750 et maintenant Orléans qui est en 300. Je pense que c'est assez unique en tout cas en Europe. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les Orléans Masters ou voilà?
La billetterie est ouverte, hein, vous pouvez acheter vos billets. Hein. On a un beau plateau, on a Tencent qui sera présent, on a Carolina Marine qui sera présent, Tom et Delphine qui seront présents. D'ailleurs, c'est le tableau du double mix qui est de loin le plus élevé parce qu'on a 6 double mix considérés dans le top 10 mondial.
Christian Saint-Boyeux, si je dis pas de bêtises.
Oui, ils seront présents, ouais.
Pour nos auditeurs, parce qu'il y a des Français, mais il y a quand même des joueurs majeurs internationaux, donc.
Ouais. Bah, en simple, on a les deux Japonais, Mishomota et Tusniema, qui sont 14 et 16. En simple dame, je suis en train de regarder les éléments Voilà, on a celle qui a gagné à Orléans en 2021, la Thaïlandaise, là, qui est là. Mm-hmm. Je ne vais pas prononcer son nom, hein, je vais le payer par son prénom.
C'est un gros risque. Oui, oui.
Voilà. On va faire comme ça. Michelle Lee, Zhang, l'américaine. Donc, il y a des beaux, des belles joueuses en double dame. Bah, c'est un tableau qui est exceptionnel, c'est un tableau qui est d'un niveau 300. Donc, là, je regarde en double homme, on a la paire indienne là, qui est 6e mondiale.
Ranki Radishiti.
Ouais. Ouais. Donc, c'est des super joueurs. Ils sont. Moi, j'ai regardé encore les tableaux. À part le double mix, même le double mix, c'est chaud hein, quand même pour les Français. Hein. Ouais. Parce que quand je regarde le double mix, 6 joueurs qui sont au niveau top 10 mondiaux. Donc il y a les Indonésiens, Jordan et
Octavianti. Ah, on les aime beaucoup. On les aime beaucoup dans ce podcast et on est très content de les voir venir en France.
Il y a Ellis et Smith en Angleterre qui ont été reclassés en tête de série 2. Après Tom et Delphine. Après les Malaisiens, Meng et Jing. Après les Indonésiens encore. Rivaldi et Mantari. C'est du lourd quand même pour. Je souhaite toujours qu'il y ait une victoire française à Orléans parce que c'était l'objectif d'Orléans. Hein. L'objectif d'Orléans, quand on a fait la stratégie avec la fédération, c'était Paris, le top mondial, et Orléans fait briller les Français. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, hein, parce qu'il y a
Thomas Junior Popov, il a bien compris le message.
Les Popov ont gagné, mais Popov a gagné deux fois. Donc à chaque fois, il y avait un tableau où les Français gagnaient. Ce qu'ils ne sont pas encore capables de faire à Paris, hein, parce qu'on a, peut-être ça va arriver, j'espère. Mais voilà, on était bien dans ce double objectif entre Paris et Orléans et on se contrebalançait comme ça. Et donc il faut voilà, mais là il y a. C'est compliqué. Hein.
Oui, il y a un vrai niveau. On a des Français capables de gagner des Super 300 et qui l'ont déjà fait, mais. Mais là, il va y avoir une vraie opposition et c'est bah, nous, en tant que fans de BAD, quand on a eu il y a 2 ans, on vous avait en interview à Orléans, on vous avait posé la question, je me souviens, aujourd'hui c'est là, c'est un super 300, c'est top même pour les Français parce que je pense que eux aussi, même si peut-être il y aura moins de victoires faciles entre guillemets, je pense qu'en termes d'adversité et le fait qu'un deuxième tournoi français soit à ce niveau, pour eux c'est une aubaine.
Ouais, c'est une aubaine, oui, pour le public français, voilà, d'avoir 2 tournois majeurs internationaux. Et même je pourrais rajouter Nantes et Bordeaux qui se oui. sont lancés dans l'aventure
l'année dernière
donc c'est important donc on a 4 tournois en France plus la Réunion si on pourrait rajouter la Réunion aussi.
C'est vrai
qui sont assez majeurs donc c'est une vraie opportunité pour les spectateurs français et ça m'emmène j'espère qu'à travers en plus, on a 4 tournois de 4 niveaux différents et ça, c'est très, très bien. Donc, ça va emmener le public et les fans de BAD vers la compréhension du haut niveau, vers les joueurs. C'est quelque chose qu'on avait réfléchi avec la fédération. C'est qu'il faut qu'on apporte la culture badiste dans notre sport. Qu'on ait... un certain nombre que les joueurs de BAD deviennent des fans. Si on veut développer, si on veut franchir cette barrière de 200 000 adhérents, il faut qu'on ait des fans. Et parce qu'aujourd'hui on est fans de sport, on est fans de notre sport, et il faut qu'on soit des fans des joueurs de BAD. Voilà. Donc c'est un enjeu, c'est d'apporter cette culture, mais donc ça en fait partie. Donc c'est pour ça, moi je dis les événements internationaux, ce sont des outils pour notre développement et pour notre communication. Et ça doit le rester comme ça.
Et quand je, juste une dernière, c'est même pas une question, c'est plus une réflexion, je me disais, quand je vous entendais parler des tableaux et des joueurs et joueuses présents cette année à Orléans, je me dis, j'imagine même pas celui de l'année prochaine, quand on sera en pleine, même en fin de qualification olympique et qu'il faudra aller chercher des points, je pense qu'on va encore plus se régaler. Donc je pense que être passé en 300 un tournoi en France juste avant la période de qualif olympique, je pense que c'est un très bon choix aussi, hein.
Ouais, on verra. On va déjà faire cette année.
Oui, j'imagine. Moi, je me projette. J'imagine que vous êtes au tournoi qui est dans 3 semaines.
On va déjà faire celui de cette année. J'ai perdu déjà des cheveux. J'ai blanchi aussi. Mais on verra. On verra comment on s'opère l'année prochaine. Mais
j'imagine.
Oui, non, mais de toute façon, quel que soit le on aura un beau tableau demain. Il faut pouvoir jouer le 20e mondial ou le 10e mondial. C'est absolument magnifique. Donc, on aura des beaux tableaux.
Eh ben c'est tout pour nous. Bah, merci beaucoup, Franck Laurent, d'être venu et d'être même revenu dans le podcast. C'était très, très, très instructif et très intéressant.
Mais je suis toujours à votre disposition. Il n'y a pas de souci.
Bah, merci beaucoup et puis bon courage pour tout ce qui vous attend dans le top 12 et aussi pour les Orléans Masters qui, oui, alors, au moment où on enregistre, sont dans 3 semaines.
Merci à vous.
Cet épisode est à présent terminé. Merci de l'avoir écouté et merci surtout à Franck Laurent pour sa disponibilité. On voulait vraiment parler de ce sujet chaud malgré une actualité chargée et on a trouvé intéressant d'inviter un représentant de la FFBAD pour avoir leur vision des choses. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le sujet et sur l'épisode. On a notamment lancé un serveur Discord servant à ça. Le lien pour le rejoindre est dans la description, mais vous pouvez toujours nous contacter en public ou en privé sur les différents réseaux sociaux et dans les commentaires YouTube. De notre côté, on a une petite surprise qui devrait être annoncée très bientôt sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. Sinon, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain, lundi 20 mars, pour le débrief du All England. À la prochaine, portez-vous bien.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。经历这平凡的